Bonjour à chacun. Bonjour. Ah, j'ai eu peur. C'est vrai qu'on n'est pas forcément, je plaisante, mais quand je suis dans les rangs, on n'est pas forcément habitué à répondre. Mais il ne faut pas hésiter. Hein, je crois que c'est aussi la liberté. Voilà. Moi, je suis heureux en tout cas d'être là encore ce matin avec mes frères et sœurs pour glorifier le Seigneur. C'est toujours un moment béni. Et même au travers, dès le commencement du culte, au travers la louange, je crois que le Seigneur parle au cœur, le Seigneur travaille nos cœurs. Et c'est vraiment une joie que de lui appartenir. On a le privilège en Bretagne d'habiter dans une région où il y a beaucoup de littoral, il y a la mer, et j'aime beaucoup, moi, me promener particulièrement dans les ports. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais j'aime beaucoup. Je pourrais m'asseoir dans un port et y rester, je pense, des heures à regarder les bateaux qui entrent, qui sortent. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et pour ceux et celles qui connaissent un petit peu, dans le port, vous avez la capitainerie. Et j'ai toujours été surpris de voir les informations à la capitainerie. Vous avez la météo de la journée et des jours à venir. Et souvent, vraiment, cette attention particulière qui est notée sur la vigilance à avoir quant à la météo. Quand on prend la mer pour une demi-heure, ça va à peu près, mais quand on part pour une heure, deux heures ou un peu plus, on sait que les éléments peuvent changer très très rapidement. Et à la capitainerie, il y a toujours beaucoup d'avertissements sur préparer votre voyage, attention, vérifier la météo, ainsi de suite. Et c'est important, je pense, de bien préparer son déplacement pour ne pas être pris en pleine tempête ou pris dans le brouillard ou pris dans des éléments qui se déchaînent. Et on a à peu près la même chose, les pilotes de ligne, vous savez, quand ils prévoient leur vol, eh bien, ils regardent aussi toute la durée du vol, s'il y a des turbulences qui sont annoncées. Et par rapport à ça, ils vont ajuster leur parcours pour éviter de mettre à mal l'avion et par là même les passagers aussi. C'est jamais agréable d'être pris dans les turbulences. Et ce matin, moi, je voudrais parler des tempêtes de nos vies. On passe tous un moment, un jour ou l'autre, on est confronté à des tempêtes. Alors, on les appelle les tempêtes, on les appelle les déserts, on les appelle les hivers, on les appelle comme vous voulez, mais je prendrai ce matin cette image de la tempête, voire même parfois des naufrages dans les vies. Et je voudrais qu'on s'attarde à partir d'un texte sur quelques questions, quelques points qui ne sont bien évidemment pas exhaustifs, mais peut-on les prévoir, les anticiper? Comment est-ce qu'on peut s'y préparer? Peut-être certains, je pense particulièrement aux jeunes, mais pas que, se disent moi, jusque-là, tout va bien dans ma vie, tant mieux, merci Seigneur, mais je pense qu'on peut aussi prévoir et anticiper un certain nombre de choses. Et puis le deuxième point, c'est comment faire quand on est pris en pleine tempête, parce que ce n'est pas le tout, on a beau aussi être préparé. Quand on est dedans, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire? Et y a-t-il encore de l'espoir quand la tempête a conduit au naufrage? Et je voudrais, à partir d'un texte des Actes des Apôtres, qu'on puisse avoir ensemble cette réflexion. Alors, je vous invite à lire avec moi le chapitre 27 des Actes des Apôtres. On le lira en entier. Moi, j'ai l'habitude de dire il n'y a pas de hasard dans la parole. Alors, ça peut paraître comme ça un récit pas très spirituel, hein, parce qu'on va voir que on est vraiment là sur du premier degré, hein, sur le bateau, sur la navigation. Mais je pense que le Saint-Esprit a conduit vraiment les auteurs de la parole à aussi, au travers de ces textes, pouvoir nous enseigner et nous dire ce que Dieu a comme message pour nos vies. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 27, il est question de Paul, qui doit être emmené prisonnier à Rome. Donc, il avait été accusé par les anciens du peuple, il avait été arrêté. Et comme Paul avait la double nationalité, il était romain par son père, et il a souhaité pouvoir comparaître devant César en faisant valoir qu'il avait été arrêté injustement. Et donc, il va être emmené prisonnier avec d'autres prisonniers sous escorte de soldats romains, d'un centenier. Et donc, il n'y avait pas les avions à cette époque-là, donc ça se faisait par la mer, ça pouvait parfois durer très longtemps, plusieurs mois. Et donc il est ici question de ce qui est appelé dans la Bible le quatrième voyage missionnaire, parce qu'on va voir que nous, on va s'attarder sur cette particularité de ce voyage très tourmenté, mais le Seigneur a conduit aussi les circonstances pour que, au travers de cette tempête qu'il a traversée, il y ait aussi des âmes, des personnes, des hommes, des femmes qui soient sauvés, qui aient connaissance de l'évangile de salut. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. L'époque du jeûne, à ce moment-là, cette fête-là correspondait au jour de l'expiation célébré le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire à peu près fin septembre, pour vous donner une idée l'époque de l'année où se passait ce récit. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Vous allez me dire, rien de très spirituel dans tout ça. Je pense qu'on va pouvoir en tirer quelques éléments un peu plus tard. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Euraquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Peut-être déjà ça parle à quelques-uns. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit au centenier et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « c'est aujourd'hui, le 14e jour, que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Amen. Aurait-on pu éviter ce naufrage ? Ah, j'entends un oui. Sachons être attentifs aux signes, apprenons à les analyser et à prendre les bonnes décisions. Au verset 4, on va reprendre faire quelques focus sur certains versets. Au verset 4, il est écrit « Nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. » Les vents contraires. Un premier indice qui aurait peut-être pu alerter les marins sur les conditions de navigation. Et j'y vois là, dans une dimension spirituelle, certains chrétiens qui voient systématiquement dans l'opposition qu'ils rencontrent une dimension spirituelle qui parfois même rassure, ou on essaye de se rassurer avec ça, pensant que comme on est dans le plan de Dieu, c'est forcément l'ennemi qui empêche de nous avancer, de nous permettre d'avancer. Et il y a de l'opposition, et au lieu de peut-être chercher la face de Dieu, de se poser, de dire « là, je rencontre une certaine opposition », est-ce que c'est réellement, parce que ça peut arriver effectivement, le malin qui veut m'empêcher, mais on se rend compte aussi bien souvent que c'est un avertissement, c'est comme un clignotant, parce que je m'engage dans une direction, dans une voie qui est dangereuse, et il y a une certaine opposition, et il serait bon à ce moment-là peut-être de m'arrêter, de chercher la présence de Dieu, de chercher sa volonté. Et à ce moment-là, Paul aurait pu penser la même chose, sachant que l'enjeu qu'il avait de comparaître devant César, il n'y allait pas pour se faire plaisir, il n'y allait pas pour parler de la pluie et du beau temps, c'est le cas de le dire, ni de ses petits bobos, ni même de ses afflictions. L'objectif de Paul était clair, c'était d'annoncer à César l'évangile, la rencontre que Paul avait fait avec Christ. Et bien évidemment, il y avait un enjeu de taille. Et Paul aurait pu dire « oui, mais les vents sont contraires, c'est normal, il y a de l'opposition. Lorsque les vents nous sont contraires, prenons le temps de faire une pause, de nous tenir devant Dieu, d'attendre patiemment qu'il nous montre la marche à suivre. » Et parfois, le fait de se poser, eh bien, les vents peuvent s'arrêter, les vents peuvent tourner, et à ce moment-là, on a des conditions favorables pour avancer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et puis, on va le voir, et vous l'avez peut-être constaté, au fil de la lecture, moi, ça m'a interpellé, au fil de la lecture de ce chapitre, on se rend compte de deux choses, c'est que les éléments extérieurs vont être de plus en plus dangereux. On commence par des vents contraires, et puis on va le voir un petit peu au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'opposition, et ça va crescendo. Et malgré ces conditions, malgré ces circonstances, les marins persistent à vouloir continuer à naviguer. Et je suis tenté de dire, quand on a une idée, quand on a un objectif en tête, on le verra un peu plus loin, le navire n'était pas destiné uniquement à des prisonniers. À cette époque-là, quand des prisonniers devaient être emmenés, eh bien, on utilisait des navires marchands pour emmener des prisonniers ou des voyageurs d'un point à un autre. Et l'objectif du patron de ce navire, c'était certainement d'aller livrer sa cargaison, d'aller le plus vite possible faire son business. Et quand on a une idée, quand on a un objectif, on finit bien souvent par ne plus être attentif, voire on refuse même d'entendre ou de voir les avertissements. Au verset 7, il est écrit « Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. » Quand je vous dis que ça va crescendo, là, on ne peut même pas aborder. Donc il y avait un plan de route, on l'a vu, beaucoup de noms de villes, tout était prévu, planifié à l'avance, mais les éléments sont contraires, la navigation est lente, et les mauvais choix peuvent avoir des conséquences qu'on finit par ne plus maîtriser. Et on pense encore être maître de notre destin, mais il en est autrement. Et on essaye de planifier, ce qui en soi n'est pas forcément mauvais, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre au jour le jour en disant « de toute façon, je ne sais pas demain ce qui va se passer, donc je ne prévois rien ». La parole nous engage aussi à être sages, donc à planifier les choses, à prévoir, à anticiper. Mais il faut savoir aussi modifier sa route compte tenu des circonstances de la vie. Et une bonne planification avec des mauvais choix ne nous amènera pas là où nous souhaitions aller. Une bonne planification, même si j'ai bien prévu les choses, ça paraît cohérent. Si je fais des mauvais choix, j'arriverai pas au but. Je n'arriverai pas là où je pensais aller. Et le centenier pensait pouvoir aborder à Cnide, mais le vent ne l'a pas permis. Et donc, première contrariété, ils n'ont pas pu aborder à cet endroit-là. Et puis au verset 8, nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Ah, enfin un abri, un port. On va pouvoir se poser, on va pouvoir se mettre à l'abri pour reprendre des forces, après des vents contraires, après une mer agitée. Et là va se poser un dilemme. Que faire maintenant? On est dans le port, sur le sud de l'île de Crète, sud-est. Deux cas de figure, soit on reste là pour passer l'hiver en attendant les jours meilleurs, ou alors reprendre la mer pour essayer de trouver mieux plus loin. Et là, il nous est dit, les versets 10 à 12, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. » Une autre traduction en parlant de ce port de Phénix, il est traduit ici, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest. D'autres traductions disent qui est protégé des vents du sud-ouest et du nord-ouest. Et ce port de Phénix n'était pas très très loin de Beauport. Et là, trois personnes vont donner leur avis sur la question. Le pilote du navire, le patron et Paul, serviteur de Dieu. Alors le pilote, moi je vois ça un petit peu comme le technicien, c'est l'expert, c'est le spécialiste, c'est lui qui a l'expérience de la navigation. Et aujourd'hui on consulte toutes sortes de conseillers en tout genre. Alors la liste pourrait être longue, hein. Les conseillers, faudrait presque des conseillers pour choisir un conseiller maintenant, parce qu'il y a un tel panel qu'on ne sait plus à quel conseiller se vouer. Conseiller matrimonial, conseiller d'orientation, conseiller en gestion, conseiller en image, conseiller technique, conseiller bancaire, conseiller. On les appelle même les coachs parce que ça fait mieux, ça fait américain. Hein. Et on consulte les techniciens, les spécialistes. Eux, ils ont le savoir. Eux, ils savent. Ils sont expérimentés. Et puis le deuxième à donner son avis, c'est le patron du navire qui était sur le bateau. Et le patron, moi, je vois ça comme celui qui a le pouvoir. Le bateau lui appartient, c'est l'autorité, et puis c'est celui qui détient la finance. Le patron, c'est quand même lui qui a le cordon de la bourse. Et on va essayer de trouver dans nos tempêtes, dans nos difficultés, on va essayer de trouver une réponse ou un appui auprès des hommes ou des femmes de pouvoir pensant qu'ils pourront nous apporter la solution. Alors on consulte. Et là encore, il est important et sage de rester équilibré. C'est pas mal de s'informer auprès de personnes compétentes, je dis bien de personnes compétentes, mais n'oublions pas de consulter aussi nos frères et sœurs en Christ et surtout de demander à Dieu ce qu'il en pense. Et la troisième personne qui va donner son avis, c'est Paul. Alors Paul, sur le CV, c'est certainement pas le plus qualifié ou le plus compétent en la matière. Mais Paul, il a une sagesse que les autres n'ont pas. Et vous remarquerez qu'à ce moment-là du récit, il n'est pas écrit que Dieu s'est révélé à lui et qu'il lui a dit qu'il fallait prendre telle ou telle décision. Non, non. À ce moment-là, il fait juste preuve de bon sens. Il a su lui rester vigilant à tous les signaux extérieurs, tous ces clignotants qui sont autant d'avertissements. Il leur dit simplement « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages ». C'est-à-dire, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Quand vous avez déjà passé plusieurs jours à galérer, que vous n'avez pas pu aborder, que les vents sont contraires, qu'on est ballotté de tous les côtés, il ne fallait pas être devin ou spécialiste pour avoir un tout petit peu de bon sens. Et c'est le seul, apparemment, dans les trois, là, c'est le seul à avoir ce bon sens. Et quelle légitimité a-t-il par rapport à un pilote expérimenté? Il a simplement le sens de l'observation et la sagesse qu'il a acquis au fil de sa vie. Et dans 2 Corinthiens, il écrira ceci à l'église de Corinthe, au chapitre 11, verset 5. J'ai repris quelques éléments, mais il dit quand même « 3 fois j'ai fait naufrage, j'étais en péril sur les fleuves, j'étais en péril sur les mers ». Je pense que c'est quelqu'un qui avait certainement observé, qui avait su tirer profit de son expérience et voilà, qui regardait simplement, qui était attentif, parce que son objectif, lui, n'était pas le même que l'objectif du pilote ou du patron. Et malheureusement, le centenier ne tiendra pas compte de son avis. Alors là, il y a un prétexte, je ne vais pas m'étendre des heures dessus, mais moi j'ai un petit peu de mal à comprendre quand même. Le port n'était pas bon pour hiverner. Oh, ben non, on ne va pas rester là, c'est trop dangereux, c'est pas bien. L'origine du nom Beauport, je n'ai pas recherché, il y a une traduction qui dit aussi bon port. Alors, je me dis, soit sur cette île, ils étaient quand même pas très bien. Il y avait un port qui était franchement pas terrible, mais ils se sont dit, tiens, on ne sait pas comment l'appeler, on va l'appeler Beauport. Et puis au verset 9, il nous a dit, un temps assez long s'est écoulé. Donc ils étaient restés dans ce port-là pendant quelques temps, donc ils étaient a priori plutôt en sécurité, plutôt que sur la mer déchaînée. Mais il fallait toujours aller plus loin, il fallait continuer absolument. Mais non, oui, mais on ne va pas aller loin, on va aller à Phénix, c'est mieux là-bas, c'est mieux. Et notre entêtement ne nous permet plus de voir la réalité des choses. Et nous amène parfois à prendre de mauvaises décisions, parce qu'on ne voit plus, on n'a qu'une idée en tête, c'est avancer, avancer, il faut y aller. Et puis, la plupart furent d'avis de quitter Beauport pour atteindre Phénix, donc un autre port de Crète, afin d'y passer l'hiver. Et puis, au verset 13, il est écrit un léger vent du sud, vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre. J'ai consulté le pilote, c'est lui le spécialiste, j'ai le soutien du patron, et en plus, de toute façon, la plupart sont de mon avis. C'est bon, j'y vais, je fonce. Ben oui. Bon, c'est vrai, il y a bien un frère, une sœur qui m'a déconseillé d'y aller, mais il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien. Moi, j'ai vu les spécialistes, ils m'ont tous dit, c'est bon, ton plan, il est réglé, c'est bien, vas-y comme ça. Ouais, bon, les chrétiens, ils sont gentils, mais ils se mêlent de tout, ils n'y connaissent pas grand-chose. Et d'ailleurs, regarde, tout se passe super bien. Un petit vent du sud, là. Je ne sais pas si vous appréciez le vent du sud, c'est agréable, le vent du sud. Hein. Une petite brise, c'est un vent chaud, le vent du sud. Donc, en général, on est plutôt à l'aise, il n'y a pas besoin de mettre le pull. C'est paisible, enfin agréable, une belle accalmie. Ce petit vent chaud, ça me rassure, ça me fait du bien. J'ai repris les choses en main, je suis maître de mon dessein. C'est bon, je lève l'ancre, j'y vais. Après des jours difficiles, compliqués, ça semble aller mieux. Mais on n'a tiré aucun enseignement de l'épreuve et on repart de plus belle, tête baissée. Et on se retrouve rapidement en pleine tempête, verset 14, mais bientôt, vous voyez, ça n'a pas tardé, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Euraquilon, c'est un vent qui souffle en tourbillon, c'est une sorte de tornade. Et là, quand on est dedans, il n'y a plus aucune maîtrise. On ne peut que se laisser entraîner à la dérive en espérant en sortir le plus vite possible, dans quel état le moins mal si c'est possible. Et le plan de route, là, il ne tient plus. Hein. Je vais aller à Phoenix, je vais passer l'hiver, après je vais aller là, après je vais aller à tel endroit. La tornade arrive, le tourbillon, et on est pris dans quelque chose qui nous emmène. Et l'objectif de passer l'hiver bien tranquillement à Phoenix tombe à l'eau, c'est le cas de le dire, et le bateau continue à dériver sans que le pilote ne maîtrise sa trajectoire. Et là, ils vont vivre 3 jours particulièrement difficiles au cœur de la tempête. Le premier jour, les marins mettent les chaloupes à la mer pour ceindre le navire en passant des câbles sous la quille et autour des parois latérales pour s'assurer que la coque ne va pas se briser. On n'était pas à l'époque sur nos paquebots ou nos cargos d'aujourd'hui en métal, là, avec des parois qui sont épaisses, qui sont soudées et qui arrivent quand même à couler. Hein. Mais on était sur des navires en bois. Et donc là, la première démarche en pleine tempête, ça a été de dire, on va d'abord essayer que le navire ne se disloque pas. Donc on a essayé de passer des câbles autour pour ceindre le navire. Et ça m'a fait penser à un texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 13. Un peu plus tôt, l'apôtre Pierre encourage les chrétiens et il dit maintenant, voilà, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et puis au verset 13, il leur dit ceci, c'est pourquoi vous êtes dans l'épreuve, vous êtes dans des épreuves, vous êtes attristés, mais c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Saignez les reins de votre entendement. Et j'ai pris une version de parole vivante que j'aime beaucoup, qui dit ceci, c'est pourquoi rassemblez vos pensées et vos énergies, tenez-vous prêts à avancer et à agir. Il n'a pas écrit avancez et agissez, non, tenez-vous prêts. Il y a des temps pour tout. Soyez sobres et vigilants, gardez le contrôle de vous-même, tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Et dans la tempête, c'est quelque chose d'important, c'est une véritable prise de conscience, une prise de responsabilité. Rassemblez vos pensées, vos énergies, il est temps d'arrêter de se disperser. Quand on est dans la tempête, on ne peut plus aller de tous les côtés, courir, non, il faut se concentrer sur l'essentiel, sinon on va s'épuiser inutilement. Rassembler vos énergies, c'est différent de « je récupère des forces pour m'en sortir tout seul ». C'est pas « ouais, bon, allez, là je suis un peu fatigué, je me pose, je récupère des forces et j'y vais, je fonce ». Non, non, c'est différent que ça. Rassembler ces énergies, c'est aussi reconnaître que nous sommes faibles. Et Paul écrit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, « car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et quand on lit les versets qui précèdent, Paul ne proclame pas sa force, mais bien sa faiblesse. Et quand il dit ici « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort », oui, bien sûr, nous sommes forts par celui qui nous fortifie, mais avant tout, pour que la force de Christ puisse agir en nous, il est nécessaire que nous reconnaissions notre faiblesse. Et ce n'est pas de proclamer que nous sommes forts, on a parfois peut-être des raccourcis en disant « je suis fort, c'est dur, mais je suis fort, je suis fort, je suis fort ». On peut proclamer, bien évidemment, mais il faut croire du cœur que la force de Christ nous rend fort. Et je pense qu'avant de proclamer, c'est d'abord important de reconnaître et d'accepter que nous sommes faibles et que c'est la foi en Jésus-Christ qui va nous rendre fort. Rassemblez vos énergies, tenez-vous prêts, avancez et agir. Les marins auraient pu baisser les bras. Et je crois que rassembler les énergies, c'est aussi se dire, je ne me mets pas assis en disant tout est foutu, je ne peux plus rien faire. De toute façon, je vais droit à la catastrophe. Donc, à quoi bon essayer de m'en sortir ? Rassembler ces énergies, c'est aussi, oui, tenez-vous prêt, avancez, agir. Et au moment, en attendant que la tempête se calme, alors je vais avoir des décisions à prendre. Et c'est ce que les marins ont décidé de faire. Ils ne sont pas restés dans la cale en disant ben, « on va se mettre à l'abri et puis on va attendre ». Combien de temps ça va durer ? Un jour, deux jours, huit jours ? Non. Ils ont décidé d'agir. Et un des pièges qui nous guette dans nos tempêtes, c'est l'immobilisme. Voire j'ai mis l'abandon de poste. On n'assume plus notre rôle et on ne prend plus aucune décision. Et ne pas prendre de décision, c'est déjà prendre une mauvaise décision. Parce que le Seigneur ne nous demande pas de baisser les bras et de tout abandonner et de ne plus prendre de décision. Il nous demande juste de lui faire confiance et de laisser prendre les choses en main. Et la parole de Dieu nous invite à nous tenir prêts à avancer et à agir au temps convenable quand il nous donnera le top départ. Et ça n'est peut-être pas encore le moment, mais je me tiens prêt à l'écoute de Dieu et en ayant cette entière espérance dans sa grâce. Et puis il est dit garder le contrôle de vous-même. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile quand on est dans la tempête. Parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a l'angoisse, il y a l'inquiétude, il y a toutes sortes de pensées qui viennent. Et garder le contrôle de soi-même, ça me fait penser à la maîtrise de soi qui est évoquée comme fruit d'esprit. Contrôle sur nos pensées, contrôle sur notre parole, contrôle sur nos actions. Le Seigneur nous encourage à garder le contrôle de nous-mêmes dans ces moments difficiles pour ne pas nous laisser aller dans des pensées qui vont nous éloigner de lui, qui vont nous amener à prendre de mauvaises décisions. Ça, c'était le premier jour. Ils ont ceint le navire pour éviter que la coque ne vole en éclats sous les coups de butoir des vagues. Le deuxième jour, au verset 18, « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. » Comme je l'ai évoqué, les prisonniers, Paul, voyageaient sur un bateau marchand. Et là, je ne me mets pas d'ailleurs, à la place du patron, mais qui a dû prendre cette décision difficile de jeter sa cargaison à la mer. Parce que lui, le patron, la cargaison, il l'avait payée. Hein. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de crédit, c'était pas j'emprunte à la banque et puis je paye à 90 jours fin de mois comme dans les commerces, pour ceux qui connaissent un petit peu les systèmes. Enfin, non, c'était j'achète de la marchandise, je la paye et puis après je vais la revendre et je me fais du bénéfice. Et là, il a pris une décision difficile. Ouais, je vais devoir jeter ma cargaison à la mer. Le détachement des biens matériels n'est pas facile. Mais c'est souvent dans les moments où notre vie est en danger qu'on se rend compte qu'ils ont bien peu de valeur. Ce qui, en temps normal, nous assure une certaine sérénité, perd toute sa valeur quand notre vie est battue par les flots. Quelle désillusion quand on pense avoir réussi sa vie professionnelle avec une belle carrière, avec une belle maison, avec une résidence secondaire. Et puis soudainement, le couple vole en éclats, tout s'effondre, on n'a rien vu arriver, et on se rend compte que tout ce qu'on a acquis s'effondre comme un château de cartes. Quelle impuissance quand la maladie vient frapper un être cher. Le compte en banque est bien garni, les livrets d'épargne sont pleins à craquer, mais la médecine reste impuissante devant la maladie qui ronge une vie. Combien de suicides incompréhensibles alors que tout semblait réussir, mais le cœur était désespérément vide. Des gens qui ont acquis la notoriété, qui ont humainement, matériellement tout ce qu'il faut, qui finissent par mettre fin à leur jour parce que le cœur est tellement vide. Et Jésus dira dans l'Évangile, dans Matthieu chapitre 16, verset 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Les biens matériels, dans les moments où ça commence à balloter notre vie, on commence à se rendre compte que ce n'est pas là. La vraie sécurité, ce n'est pas là ce qui va pouvoir nous faire qu'on va s'en sortir. Et au verset 19, le troisième jour, nous y lançâmes à la mer de nos propres mains les agrès du navire. Les agrès, c'est ce qui sert à la manœuvre du navire. Je ne sais pas s'il y en a qui font un peu de navigation ou de voile. Et là, je me suis dit, est-ce bien raisonnable de se débarrasser des agrès du navire ? Parce que là, franchement, Je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire après, mais il fallait absolument alléger le bateau. Et là, cette décision, là encore, de jeter les agrès du navire, elle a une signification importante. Tant que nous voudrons conduire notre vie seule, nous prendrons le risque d'emprunter des voies dangereuses. Et sur un navire, il ne peut pas y avoir deux personnes en même temps à la manœuvre. Tant que je m'obstine à vouloir garder la main sur le gouvernail de ma vie, j'empêche Dieu de prendre le contrôle et de me conduire dans les voies qu'il a prévues pour moi. Alors oui, il est raisonnable de jeter les agrès pour que Jésus puisse diriger ma propre vie. Jeter les agrès, c'est lâcher prise, c'est dire non, c'est plus moi qui vais tenir le gouvernail, c'est plus moi qui vais être à la manœuvre, c'est tout ça, je le jette à la mer et j'accepte que le Seigneur vienne diriger ma propre vie. Au verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Dans les moments difficiles, on a l'impression, ou qu'on se tourne, de ne plus rien y voir. C'est comme un brouillard, c'est comme une nuit, c'est comme en pleine mer, et vraisemblablement, à cette époque, on ne naviguait pas encore à la boussole. Et en pleine mer, quand vous n'avez aucun repère, sans boussole, le seul moyen de se repérer, c'était d'observer soit le soleil pendant la journée, soit les étoiles pendant la nuit. Et le problème, c'est quand il n'y a ni soleil ni étoile, ben on est complètement désorienté. Et on peut imaginer la force de la tempête et des nuages. Pour que le soleil ne paraisse pas pendant plusieurs jours, ça veut dire qu'il ne filtrait même pas à travers les nuages, et c'était certainement impossible de savoir de quel côté était le soleil. Plus de repères, perdu tout espoir de s'en sortir. Et dans nos difficultés, dans nos tempêtes, combien on peut parfois avoir ce sentiment de dire « je ne sais plus où j'en suis, j'ai plus aucun repère, tout est fichu, je ne sais même plus dans quelle direction aller ». Alors les marins ont pris les décisions qui s'imposaient en essayant de consolider le navire, en l'allégeant, et malgré tout, ça ne suffira pas à éviter le naufrage. Au chapitre 27, les versets 21 à 26, on va les relire ensemble, à partir de la deuxième partie du verset 21. « Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète ». Afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. » Et je suis persuadé qu'à ce moment-là, Dieu aurait pu éviter le naufrage du navire. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Mais à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important. C'est Dieu qui a conduit les choses. À partir de ce moment-là, c'est Dieu qui a conduit les choses. Vous relirez la suite du chapitre, bien évidemment par l'intermédiaire de son serviteur, de Paul, qui était sur le bateau. Mais il y a eu un virage. Jusque-là, les marins, le pilote, le patron, tout le monde avait donné son avis, tout le monde avait essayé de faire. Mais dès ce moment-là, Dieu a pris les choses en main. Et le message est clair. Reconnaître qu'on s'est trompé, prendre courage et accepter que le plan de Dieu ne soit pas le nôtre. Reconnaître qu'on s'est trompé, Paul commence comme ça. Ça peut paraître, là encore, peut-être surprenant. La première chose qu'il leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Au moins, si ça peut, je ne l'ai pas écrit, mais leur mettre un peu de plomb dans la tête, quoi. Ils sont marins, c'est leur métier. Ils ont été avertis, ils ont eu des signes extérieurs et ils se sont laissés avoir comme des gamins, comme des gens inexpérimentés. Et Paul, en leur disant ça, je crois que d'ailleurs, il ne va pas s'attarder. Je crois que c'est pas un reproche qu'il leur fait, c'est pas une accusation. Mais c'est au homme, et il y a un peu de bon sens, tirez d'expérience de vos épreuves. Tirez de l'expérience de vos épreuves. Et Dieu ne nous accuse pas quand nous sommes dans la tempête, quand nous avons fait des erreurs de choix, de décision. Dieu n'est pas là avec un doigt accusateur en disant « il fallait m'écouter, ben, comme tu ne m'as pas écouté, débrouille-toi ». Non. Paul commence par « vous ». Il fallait m'écouter, mais tout de suite derrière, il va donner la solution que Dieu lui a transmise. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, ne tient pas rigueur de nos échecs, de nos mauvaises décisions. Et heureusement, sinon on croulerait sous le poids de la culpabilité. Mais au contraire, il nous encourage, il nous dit « prends courage, prends courage ». Reconnaître qu'on s'est trompé, c'est pas facile de reconnaître ses erreurs. C'est pas facile de dire oui, ben oui, il faut l'humilité, de dire oui, je me suis trompé, ben oui. Je pensais que c'était bien comme ça, mais je reconnais. Mais c'est aussi un terrain favorable pour que Dieu nous fasse grandir, pour qu'il puisse prendre les choses en main. Et c'est nécessaire de savoir le faire, de reconnaître nos limites et parfois notre impuissance dans beaucoup de situations et dans beaucoup de décisions. Et puis la deuxième chose dans ce message d'espoir, prendre courage. Prendre courage. Le navire est toujours battu par la tempête. La tempête s'est toujours pas calmée. Mais il y a enfin un message d'espoir. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu à condition qu'on accepte que Dieu prenne les commandes. Aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Alors qu'un peu plus haut, il était écrit « Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver ». Il y a un message d'espoir. Aucun ne périra. Aucun ne périra si on accepte à ce moment-là de se plier à la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a de la valeur pour Dieu? Ce n'est pas nos biens ou notre richesse, c'est notre vie. Il n'y aura de perte que celle du navire, mais ce n'est pas grave, le navire. Et je pense qu'à ce moment-là, le patron il a dû se dire « Ben, si je perds mon navire, c'est comme ça, mais si je peux être sain et sauf, si je peux sauver ma vie, peut-être qu'il était marié, qu'il avait des enfants, qu'il avait une situation familiale, et il a dû dire, mais moi, je tiens à ma vie. Je tiens à ma vie, et perdre le navire, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a de la valeur aux yeux de Dieu? Une fois de plus, ça n'est pas nos biens, ça n'est pas nos richesses, c'est notre vie. C'est ce qu'il a de plus précieux. Oui, mon ami, mon frère, ma sœur, ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Garde ça sur ton cœur, même dans la tempête, ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Et puis le troisième point dans ce message que Paul simplement a donné à ses marins, c'est aussi d'accepter que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu a confirmé à Paul qu'il devait comparaître devant César. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'objectif de ce voyage, sur le point de chute, il devait aller à Rome et Dieu lui a dit « Il faut que tu comparaisses devant César, rien ne change ». Et à ce moment-là, comme je l'ai dit, Dieu aurait pu calmer le vent, calmer les flots. De toute façon, vu l'état du navire qui était dépouillé de ses agrès, je pense que ça n'aurait pas servi à grand-chose. Mais de toute façon, ce n'était pas possible de poursuivre le voyage dans ces conditions. Et quand nous laissons Dieu intervenir dans notre vie, il faut aussi que nous acceptions, que nous assumions les conséquences de nos actes. Les marins ont pris des décisions et il fallait les prendre. Mais il y a des conséquences parfois irréversibles. Mais ça ne doit pas nous faire crouler sous le poids de la culpabilité. Si je reconnais que j'ai pris des mauvaises décisions, si je reconnais que je me suis trompé, si je dis oui, Seigneur, je te demande pardon parce que là, effectivement, tu m'as. C'est souvent après coup, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. C'est quand on est sorti qu'on se dit mais oui, mais que je suis bête. Quand il s'est passé ça, quand un tel m'a dit ça, quand j'ai vu telle et telle chose, mais oui, j'aurais dû comprendre. Et quand je reconnais à ce moment-là les choses, ben oui, je me suis trompé, je ne vais pas le refaire. Et il y a des conséquences. Mais Dieu. Si j'accepte qu'il reprenne les choses en main, à ce moment-là, il va les orienter d'une autre manière. Et quand nous laissons Dieu intervenir, alors il faut y accepter et assumer les conséquences de nos actes. Dieu n'en est pas responsable. mais il saura à sa façon trouver une issue favorable. Et vous verrez, après, je ne vais pas le lire, mais vous pourrez lire le chapitre 28, et vous verrez comment Dieu a conduit les circonstances pour que Paul puisse aussi, sur l'île de Malte, évangéliser, puisse guérir au nom du Seigneur, puisse faire que d'autres hommes et de femmes connaissent l'Évangile et le salut en Jésus-Christ, et comme quoi, d'une situation de tempête, Dieu en a sorti du bien. Et puis, il nous est dit, dans ce chapitre 28, verset 11, « Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie, et puis Paul est arrivé à destination à Rome. » Et ça me fait penser à un nouveau départ. Ça me fait penser à un nouveau départ. La vie a été battue par les flots, il y a eu un naufrage, il y a eu des difficultés. Et après un séjour de 3 mois, oui, il y a des temps où il faut accepter de ne plus avancer. Paul aurait pu trépigner d'impatience, dire « Oui, mais moi, il faut que j'aille à Rome. Oui, mais moi, je veux voir César. » Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il est resté 3 mois sur l'île de Malte. Et derrière, il y a un nouveau départ. Et Dieu ne nous laisse pas, quand on lui confie notre vie, quand on accepte dans nos déserts, dans nos tempêtes, quand on accepte qu'il prenne les choses en main, alors il y a le temps du repos, il y a le temps où il faut être prêt à agir, et puis il y a le moment du nouveau départ. Et ce matin, peut-être plusieurs sont dans la tempête, peut-être même certains disent ou pensent que leur vie est un naufrage. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, mon ami, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, pourvu qu'on choisisse que cette vie soit fondée sur Christ et qu'il soit le seul maître à bord. Si on ne tire pas les enseignements de, oui, ce qu'on peut appeler nos échecs, nos propres échecs, parce qu'on a voulu faire seul, alors on risque de recommencer, on risque de ne pas voir ce que Dieu veut nous apprendre, mais si on dit oui, ma vie est un fiasco, ma vie est un naufrage, oui, dans cette situation-là, dans mon couple, oui, dans, que sais-je encore, des tas de situations, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Peut-être il y a des vies, ce matin, qui sont des naufrages, parce que battues par les flots, par la tempête, mais alors, prends courage, mon frère, ma sœur. Le Seigneur a une issue favorable. Si tu acceptes d'abandonner les choses, si tu acceptes qu'il prenne les choses en main, alors oui, peut-être qu'il y aura encore un temps difficile, un temps où les flots ne vont pas se calmer tout de suite, mais le Seigneur, en son temps, lui, conduira les choses. Et après un temps de restauration, alors il donne un nouveau départ. Il permet de repartir vers quelque chose de meilleur. Amen. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est vrai que dans ces moments de la vie où parfois nous sommes comme dans des ténèbres, quand nous ne voyons plus ta lumière briller, quand nous ne voyons plus ce soleil éclairer notre route, nous avons toujours cette parole qui est là pour nous éclairer, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'elle reste serrée sur notre cœur. Tu connais, toi, les pensées secrètes, tu connais les vies, tu connais les tourments, tu connais les naufrages, les dégâts qu'il y a eu, Seigneur, suite aux tempêtes. Tu sais ce qui a besoin d'être restauré dans les cœurs, Seigneur. Et ce matin, je te prie vraiment pour les vies brisées. Oui, même ce qui peut paraître un naufrage aux yeux des hommes, pour toi, rien n'est insoluble, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Et ce matin, je veux me réjouir, Seigneur, de ce que tu nous donnes encore cette parole. Prends courage. Prends courage. Alors nous voulons lever les yeux vers toi. Nous voulons placer toute notre confiance en toi. Et je te prie, Seigneur, vraiment de venir restaurer, de venir montrer dans les cœurs, par ton Saint-Esprit, de révéler, Seigneur, ce qui a besoin d'être abandonné. Ce qui a besoin d'être abandonné. Si souvent, nous avons facile à remettre la main sur le gouvernail. Nous te laissons les commandes et puis dès que nous en avons l'occasion, nous reprenons les choses en main. Seigneur, pardon. Pardon pour le peu de foi. Pardon pour mon peu de foi, Seigneur. Viens augmenter ma foi, Seigneur. Viens me montrer dans les moments difficiles, d'autant plus dans les moments difficiles, l'importance que tu sois aux commandes, Seigneur. Oh, je te loue, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu n'es pas ce Dieu accusateur. Tu n'es pas ce Dieu qui est là pour nous accabler, nous montrer indéfiniment notre passé, pour nous charger, mais nous l'avons chanté ce matin. Tu as pris, oui, ce fardeau, tu as porté le fardeau du péché. Tu es là pour soulager les vies. Tu es là pour donner une nouvelle vie, Seigneur, et je te rends grâce. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Amen.